Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Donc, poursuivre notre étude des dons spirituels, et nous avons vu la dernière fois, ou les dernières fois, que les dons spirituels qui étaient entièrement surnaturels venaient par, comme une conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, en réponse à la foi et à une recherche persévérante et ardente. Maintenant, s'il est vrai que les dons spirituels, parce qu'ils sont l'expression de, quelque sorte, des attributs de Dieu, ils sont les manifestations limitées dans le temps des attributs de Dieu, c'est-à-dire sa toute-puissance, dans les dons de miracles et les dons de guérison, son omniscience dans les dons de révélation et son omniprésence. Si donc les dons spirituels sont réellement ces manifestations des attributs de Dieu, alors ils sont parfaits instantanément. Ça veut dire que quand quelqu'un est guéri, il est guéri. Quand quelqu'un reçoit une parole de révélation, de sagesse, de connaissance, c'est clair. Et pourtant, il y a une progression dans les dons spirituels qui est requise de celui qui les exerce. Non pas dans ce sens que il va, comment dirais-je, progresser dans la manifestation des dons. Encore une fois, le don de guérison, il est immédiatement parfait, on est guéri ou on ne l'est pas. Mais dans la disponibilité à la réception et à la manifestation de ces dons, et notamment pour ce qui est des dons de la parole, c'est-à-dire prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, etc., il y a une possibilité de voir s'affiner les dons. Une possibilité de voir d'une plus grande sensibilité à la voix du Saint-Esprit d'abord, donc d'une plus grande précision dans la manifestation du don, une plus grande capacité de discerner les nuances d'un message prophétique qui a été reçu, et puis aussi une plus grande maturité dans l'expression. Et il arrive fort souvent, par exemple, que quelqu'un qui est nouveau dans la manifestation du don de prophétie, prenons le don de prophétie parce que c'est celui qui est le plus typique de ce genre de don-là, mais ça pourrait si bien s'appliquer pour les dons de tous les autres dons de révélation, d'inspiration, etc. Mais il arrive, par exemple, que quelqu'un commence à prophétiser. Et il va donner, par exemple, deux ou trois phrases qui va exprimer la pensée de Dieu qu'il a reçue. Et très souvent, dans ces cas-là, il arrive qu'un frère plus ancien, dans l'exercice du don, vienne trouver cette personne, et souvent d'ailleurs le Seigneur permet ces choses-là pour encourager le nouveau qui débute, je lui dis, écoute, j'avais la même pensée que toi, mais si je l'avais exprimée, je l'aurais exprimée différemment. J'aurais pu aller plus loin que toi. Tu as bien vu qu'il y avait ça, ou il y avait telle et telle pensée, mais tu vois, il y avait aussi cette autre pensée. Il y avait telle nuance que tu n'as pas exprimée. Si je peux prendre un petit peu cette image, qui vaut ce qu'elle vaut, bien sûr, ça n'est qu'une image. Quelqu'un qui commence dans l'exercice du don de prophétie, eh bien, il reçoit quelque chose de Dieu et il le balance en vrac, si j'ose dire. c'est vraiment de Dieu, c'est vraiment la pensée de Dieu, il n'y a aucun doute en cela. Mais on sent que ça pourrait être affiné. Et parfois, il se produit un autre phénomène. C'est que cette pensée prophétique qui a été donnée, eh bien, l'est par deux ou trois autres. Deux ou trois autres prophéties ou révélations qui vont dans le même sens. Il arrive parfois que deux ou trois personnes ont reçu la même pensée prophétique. Et quelqu'un exprime une première pensée, une première fois cette pensée, si j'ose dire. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu être affiné. Alors un deuxième apporte les précisions qui manquaient à la première. Et puis éventuellement même un troisième. Et là, l'apôtre Paul dit, bon, écoutez, maintenant, là, ça suffit, quoi. Parce que quand même, quand trois ont prophétisé la même pensée, en principe, on a compris. Car il peut se produire des cas où tout le monde pourrait prophétiser la même chose. Il y a ce qu'on pourrait appeler parfois des nuages prophétiques qui descendent sur une assemblée. Et tout le monde pourrait prophétiser la même chose. Tout le monde. Et on voit ça, par exemple, dans le cas où Saül, vous vous souvenez, qui veut faire saisir Samuel, envoie des gens pour le saisir. Et puis ces gens-là, il y a l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans une réunion de prière qui se tient dans le lieu où est Samuel avec les fils des prophètes. Et quand les envoyés du roi rentrent, ils sont saisis par la nuée prophétique, ils se mettent à prophétiser. Et puis Saül envoie une deuxième troupe de gens, et puis ainsi de suite. Puis après, il vient lui-même, et lui-même est saisi par l'esprit prophétique. On connaît par exemple dans le réveil des Cévennes, des cas de ce genre, où la nuée prophétique était tellement puissante dans des réunions du désert qu'il y avait là-bas, que des envoyés du roi qui venaient pour les arrêter ont été eux-mêmes saisis par l'esprit de prophétie, sont mis à prophétiser, et puis ils n'ont pas pu accomplir leur mission. Alors dans ce cas-là, eh bien, tout le monde pourrait exprimer la même pensée prophétique. Alors Paul dit, écoutez, bon, ben, quand il y en a trois qui l'ont donné, ça suffit, quoi. On a compris. Que deux ou trois parlent, et les autres discernent. Puisque les autres ont reçu la même pensée, ils peuvent dire, bah oui, amen, c'est vrai, on avait reçu la même pensée. Bon, mais ça suffit. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, me semble-t-il, cette parole que l'on a parfois mal comprise dans les milieux pentecôtistes, où l'apôtre dit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et cette parole a été mal comprise parce que, dans certaines églises de Pentecôte, on en conclut que dans un culte ou dans une réunion de prière, il ne doit pas y avoir plus de trois prophéties ou de trois dons spirituels. Et je me souviens d'avoir assisté à des cultes où le pasteur, après la manifestation d'un premier don, dit « Un !» pour que tout le monde sache bien. Puis au bout de quelques minutes, il y a un deuxième « Deux !» dit le pasteur. Et puis ensuite, il y a au bout d'un temps, un troisième don spirituel. « Trois !» Stop ! Maintenant, fini, terminé. Donc si quelqu'un a encore une pensée prophétique, eh bien, il la garde pour lui. Alors en général, on ne s'inquiète pas de savoir si... D'ailleurs, ces trois qui ont été donnés étaient vraiment des pensées de Dieu, profondes, etc. Non, trois, terminé. Et bien évident que ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce texte de Paul, mais vraiment dans le sens où nous disons, n'est-ce pas, vous pouvez tous prophétiser successivement. Il y a des moments où tout le monde peut prophétiser, mais quand il y en a trois qui ont donné la pensée prophétique, bon, toutes les nuances, quand même, ont été apportées. Celui qui n'a pas apporté les premières nuances, le deuxième l'a fait. Et puis, ce que le deuxième n'a pas fait, le troisième l'a fait, quand même. Alors, ça suffit. Il est passé à autre chose. Hein? Et c'est pourquoi, je disais, il faut grandir dans les dons. Il faut grandir. Et dans ce sens qu'il y a aussi une pédagogie de Dieu dans ce niveau-là. Quand on commence à prophétiser, il arrive très souvent que, pour reprendre cette expression, cette image que j'ai souvent employée, Dieu parle avec un haut-parleur. Parce qu'on n'est pas habitué à entendre sa voix. Vous savez, c'est Samuel auquel le Seigneur parle. Samuel, et puis Samuel, il ne comprend pas, il va voir Élie, et puis trois fois la voix revient jusqu'à ce que Élie lui dise, tu diras la prochaine fois, eh bien, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Là, c'est une voix audible. Samuel n'a pas encore entendu la voix de Dieu, il ne sait pas ce que c'est. Alors Dieu lui parle d'une manière audible. Et puis après, il nous est dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Il les serrait, il les gardait dans son cœur, n'est-ce pas ? Et Dieu n'avait plus besoin d'employer un haut-parleur. Car dans le fond, la volonté du Seigneur est celle-là. Quand on parle avec son ami, c'est rare qu'on ait besoin d'un haut-parleur. Hein, à moins que ce soit quelqu'un de sourd. Mais autrement, on parle. Même parfois, on peut chuchoter avec un ami. Il y a des choses qu'on ne crie pas sur les toits. On dit à mi-voix. Il n'y a pas besoin, souvent même, de beaucoup d'échanges. Par exemple, des gens qui se connaissent bien, parfois un clin d'œil, une expression, puis on a compris, il y a tout un message là qui passe de cette manière-là. Eh bien, le Seigneur veut en arriver à cela, avec ses prophètes, n'est-ce pas ? Arriver à ce stade où il peut parler, comme il le faisait avec Élie, dans le murmure doux et léger, et non pas dans le tremblement de terre, ni le feu, ni ceci, ni cela. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus la nécessité d'avoir une oreille affinée pour entendre la voix de Dieu. Et il arrive parfois qu'on voit des gens qui ont prophétisé pendant tout un temps, qui s'arrêtent de prophétiser, puis ne prophétisent plus du tout. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais j'entends plus la voix de Dieu. Dieu ne me parle plus. Mais si, Dieu te parle. Seulement, jusque maintenant, il t'a parlé avec un haut-parleur. Et tu t'étais habitué à l'entendre parler avec un haut-parleur. Et maintenant, il veut que tu fasses un pas de plus. Il veut te parler au travers du murmure doux et léger. Alors, faut que tu redoubles d'attention. Faut que tu redoubles d'écoute prophétique. Il y a maintenant une certaine expérience que tu as acquise dans ce domaine-là. Alors, il faut aller plus loin. Il y a un autre point aussi tout à fait intéressant. Je me souviens d'une prédication de David Duplessis sur, qui était en même temps un témoignage qu'il avait vécu. Il prêchait sur le texte où Jean annonce la venue du Messie pour baptiser dans le Saint-Esprit. Moi, je baptise dans l'eau, vous connaissez le texte. Lui, vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et Duplessis insistait sur ce texte. Il a son vent à la main, il nettoiera son air. Il mettra le blé dans les greniers, mais la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Et Duplessis racontait l'expérience qui était la sienne. Tout à fait au début, donc, de son ministère, il était arrivé à ce stade où, après avoir connu donc de puissantes visitations du Saint-Esprit, soudain, eh bien, Dieu n'agissait plus dans sa vie. Du moins, c'est ce qui lui semblait. Il avait l'impression d'être complètement sec, d'être complètement coupé de l'onction du Saint-Esprit qu'il avait connue. Et alors, il était désespéré, et un jour, il était allé, il habitait près du désert en Californie, il avait pris sa voiture, il était allé dans le désert, et il dit, Seigneur, je ne bouge plus d'ici jusqu'à ce que tu te révèles à moi, jusqu'à ce que tu me parles. Et puis, un certain temps était passé, je ne me souviens plus, et soudain, la voix du Saint-Esprit s'était fait entendre dans son cœur, il lui avait dit, eh bien, avait attiré son attention sur ce texte. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Il dit, je suis en train de faire ça. Je suis en train de brûler la paille dans ta vie. Et à ce moment-là, il avait eu trois visions. Trois visions qui s'étaient superposées les unes après les autres, comme ça. Il avait vu soudain un champ de blé en herbe, vert, comme de l'herbe. Il y avait deux hommes qui étaient là. Et l'un demandait à l'autre, il disait, qu'est-ce que c'est ça ? Le deuxième, il disait, ça c'est du blé. Donc, la vision disparaissait. Et à la première vision se substituait une deuxième vision. Le blé était mûr cette fois-ci. On voyait nettement les épis qui étaient là, le grain qui était monté. Et il y avait les deux hommes, les mêmes deux hommes qui étaient là. Et à nouveau, le premier demande au second, qu'est-ce que c'est ? Et il dit, ça c'est du blé. Il dit, mais c'est le même que celui que j'ai vu il y a quelques mois. Oui, lui disait le deuxième homme, c'est le même. Et la vision disparaissait. Et puis il y avait une troisième vision. Le blé était coupé, il était dans des sacs. Vous voyez, des grands sacs comme ça, lourds, n'est-ce pas, immobiles, stables, qui étaient là. Et puis le blé qui était complètement dépouillé de sa balle était là, prêt à être employé. Et les deux hommes étaient là. Et le premier demande au deuxième, qu'est-ce que c'est ? et le deuxième lui dit, eh bien ceci, c'est cela. C'est la même chose que ce que tu as vu. En anglais, ça fait un petit peu différent. En français, ceci, c'est cela, ça ne rend pas très bien. C'est la même chose. Et puis la vision s'est arrêtée. Et Duplessis nous expliquait qu'il avait compris une grande vérité ce soir-là. Il avait compris justement toute cette œuvre où le Seigneur brûle la paille. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et ces trois visions étaient tout à fait caractéristiques. C'était en quelque sorte trois stades de l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie. Le premier stade, où le blé est en herbe, il n'y a pas de fruits, il n'y a que de l'herbe en quelque sorte. Et puis le deuxième stade, où le fruit est mûr, mais il est enveloppé de paille. Et alors cette paille est très utile. Parce que sans la paille, le grain de blé n'arrivera jamais à maturité. Et puis il y a le troisième stade où le blé est complètement arrivé à maturité, on le coupe, on le met dans des sacs et il est prêt. Il est prêt à être consommé. Et Duplessis disait que il y a tout un temps où le Seigneur permet que dans nos vies, dans notre expérience spirituelle, se côtoient le blé, le bon grain et la paille. Alors, il dit, le but, c'est pas la paille. On ne peut pas l'utiliser, la paille. Mais sans la paille, il n'y aura pas de grain. Il faut que les deux réalités croissent ensemble pendant tout un temps. Et ce n'est qu'à partir du moment où on a atteint une certaine maturité que le Seigneur lui-même coupe. Et alors il mettait en garde les prédicateurs, il disait quelquefois les prédicateurs font l'œuvre du Seigneur. Ils veulent couper la paille, enlever la paille, brûler la paille avant que le grain ne soit arrivé à maturité. Et puis le grain n'arrivera jamais à maturité. Et il reprenait alors le texte de Paul, rechercher les dons les meilleurs. Hein ? Les dons les meilleurs, c'est les dons de prophétie, les dons de révélation, la sagesse, la connaissance, toutes ces choses-là. Mais il disait, si on n'a pas commencé par les petits dons, notamment par le parler en langue, par des choses qui semblent inutiles, car la paille dont il est question, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas le péché. C'est les choses qui ont fait leur temps, qui sont pour un temps, et qui ne sont pas finalement le grain que l'on recherche, mais qui sont autour. Alors il disait par exemple, un certain nombre de chrétiens se demandent pourquoi parler en langue. À quoi ça sert? C'est comme de la paille, disait-il. Mais si on ne laisse pas s'épanouir ce grain-là, cette paille-là, si on ne donne pas, si on n'encourage pas le peuple de Dieu à user de ce moyen d'édification, de s'approcher de Dieu qu'est le don des langues, il ne faut pas s'attendre à voir éclore ensuite ce qu'on recherche, le grain, c'est-à-dire les dons de prophétie, les dons de sagesse, les dons de connaissance et toutes ces choses-là. Il y a un temps où, effectivement, d'une manière normale, on est moins, en quelque sorte, visité par l'esprit qui nous pousse à parler en langue ou à chanter en langue. Mais ça, c'est quand le Seigneur décide, quand le grain est arrivé à maturité, et alors là, on est mûr pour la manifestation des dons les plus importants. Et c'est pourquoi il y a toute cette maturation, il y a toute cette croissance dans les choses de l'esprit qui est l'œuvre de toute une vie. Et c'est pourquoi il ne nous faut pas négliger, disait-il, ce qui nous semble être la paille, ce qui nous semble être inutile, ce qui n'est pas ce que nous recherchons, mais le Seigneur permet que cela soit, parce que sans cela, sans la paille, il n'y aura pas de grain qui arrivera à maturité. Alors, voilà quelques généralités, si vous voulez, pour introduire maintenant l'étude analytique des dons spirituels. Les dons spirituels sont, comme nous l'avons vu, au nombre de 9, du moins tels qu'ils apparaissent dans la liste qui nous est donnée dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Ailleurs, il est vrai, les charismes sont aussi cités et il y a des choses un peu différentes qui nous sont données. Il est question, par exemple, des dons de gouverner, des dons de secourir, des choses qui semblent plus dans le domaine, si vous voulez, des capacités naturelles. Et certains ont mis en doute le bien fondé, ont mis en doute le bien fondé de, dirais-je, la doctrine pentecôtiste traditionnelle qui consiste à privilégier cette liste d'1 Corinthiens 12. Je ne pense pas néanmoins que ce soit une erreur de le faire, car je ne pense pas que Paul ici fasse autre chose qu'une liste qui est véritablement normative de ce que l'on peut considérer d'une manière certaine comme les charismes au sens où Paul les décrit dans ce texte-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres activités qui sont inspirées par le Saint-Esprit, justement ces dons de gouvernement, ces dons de secourir, qui correspondent d'ailleurs beaucoup plus à des ministères, comme nous aurons l'occasion de le voir dans la suite de ces études, le don de gouverner correspondant au ministère d'ancien et le don de secourir correspondant au ministère de diacre. Il y a le don de donner aussi, c'est amusant, je me souviens d'une vieille chrétienne dans le Nord qui était pingre comme pas deux et qui disait qu'elle n'avait pas reçu de Dieu le don de donner. C'était tout à fait intéressant à ce niveau-là. Non, le don de secourir correspond au ministère de diacre. Hein. Donc ici, nous avons quelque chose d'un petit peu différent. Mais ici, nous avons les charismes au sens paulinien du terme, au sens plein du terme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire capacités entièrement surnaturelles qui nous sont données d'en haut. Car les dons de gouvernement et les dons de secourir sont surnaturels en partie, mais font aussi appel à des capacités naturelles. Et c'est pourquoi, pour nous, la liste de 1 Corinthiens 12 reste une liste qui est normative. 9 dons. Et 9 dons, comme l'a noté Donald G., qui correspondent exactement aux 9 aspects du fruit de l'esprit qu'on trouve cités en Galates. Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. Voilà. Car nous avons vu la correspondance qu'il y a entre les dons et les fruits dans les études ultérieures, je n'y reviens pas. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre ces 9 dons-là, les uns après les autres, pour voir à quoi ils correspondent. Il est aussi clair que il y a une hiérarchie des dons. Paul nous dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ce qui nous montre que le don de prophétie est supérieur au don des langues. Et donc, il y a une hiérarchie des dons. Et les 9 dons sont cités justement par ordre d'importance. Les dons les plus importants viennent les premiers, et les dons les moins importants viennent les derniers, et il n'est donc pas étonnant de trouver le dernier des dons, c'est-à-dire le don des langues. Le don des langues, le premier que le croyant baptisé du Saint-Esprit reçoit, est manifestement le plus petit des dons. À l'inverse, la parole de sagesse, qui est le premier don cité, est le plus grand. Deuxième remarque sur cette liste des dons spirituels d'1 Corinthiens 12, c'est que les dons sont aussi classés par nature. Il y a les dons de révélation et il y a les dons de puissance. Donc, ici, il y a en quelque sorte des familles de dons qui sont proches les uns des autres. Et il n'est pas toujours facile dans la pratique de distinguer ces différents dons-là. Je prends juste un exemple. En général, on classe dans l'esprit des membres d'église moyens, si j'ose dire, ils classent indifféremment sous le terme de prophétie des paroles de sagesse, des paroles de connaissance et la prophétie au sens strict du terme. Encore une fois, dans la pratique, il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les différents dons, parce que il y a parfois des dons qui sont proches et qui s'interpénètrent. C'est compréhensible. L'Esprit du Seigneur n'est pas quelque chose qui agit selon des rails rigides, n'est-ce pas ? Il y a une grande liberté de l'esprit, l'esprit est libre, mais pour la commodité, pour la compréhension, Paul a divisé ses dons en 9, pour que nous comprenions bien. Et ça, Paul était inspiré quand il le faisait. Donc le Saint-Esprit a voulu que tout cela soit rassemblé autour de ces 9 dons. Le premier des dons, donc, nous l'avons vu, qui ouvre la liste des dons de révélation, c'est le don d'une parole de sagesse. Attention, ce n'est pas le don de la sagesse, mais le don d'une parole de sagesse. Prenons garde au sens exact des mots. C'est donc le plus grand et le premier des dons. Avant de dire ce qu'est le don d'une parole de sagesse, disons ce qu'il n'est pas. Le don d'une parole de sagesse n'est pas une manifestation de la sagesse humaine. Vous avez des personnes qui ont un certain bon sens, une sagesse humaine, et de telles personnes sont très précieuses dans l'œuvre de Dieu. Et il ne nous faudrait pas, sous prétexte que la parole de sagesse est autre chose que cela, il ne faudrait pas que nous méprisions ou que nous négligions une sagesse naturelle que les uns ou les autres peuvent avoir reçue. Mais sans nier la valeur de cette sagesse humaine, il nous faut dire que le don d'une parole de sagesse n'est pas la sagesse humaine. La parole de sagesse n'est pas non plus ce que l'apôtre Jacques appelle la sagesse charnelle. Car il existe une sagesse charnelle, nous dit l'apôtre Jacques dans son épître. C'est-à-dire un esprit de rouerie, de ruse, ce qu'on appellerait aujourd'hui familièrement un esprit de combine. Bien évidemment, une telle sagesse n'a rien de spirituel, elle est charnelle, elle est diabolique, dira l'apôtre Jacques, et ne peut donc en aucune manière être confondue avec le don d'une parole de sagesse. La parole de sagesse n'est pas une sagesse naturelle parce qu'elle n'est pas un dépôt permanent. C'est le don d'une parole. Ça veut dire que, à un moment donné, celui qui manifeste ce don reçoit surnaturellement une parole qui va exprimer la sagesse de Dieu. Au demeurant, celui qui manifeste cette parole de sagesse peut être complètement stupide sur le plan humain. Ça ne l'empêche pas, occasionnellement, d'exprimer par l'Esprit de Dieu une parole de sagesse. Et quand il aura exprimé cette parole de sagesse, il ne sera pas plus intelligent après. Et puis, un temps passera, et puis, un mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans après, il donnera une autre parole de sagesse. Ça n'a rien à voir avec sa plus ou moins grande sagesse. C'est la manifestation ponctuelle de la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que la sagesse ? Vous savez, la sagesse, c'est quelque chose de très important dans la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament. Il y a dans le livre des Proverbes un hymne à la sagesse qui dit que c'est par elle que le Seigneur a créé le monde, qu'elle était au commencement avec Dieu, qu'elle était là, préexistant à toute chose. Il y a une véritable personnification de la sagesse, une hypostase de la sagesse, comme diraient les Grecs. Tout le monde se souvient évidemment de ce que veut dire le mot hypostase, on en avait parlé quand on avait parlé de la Trinité, c'est-à-dire une manifestation, enfin pas une manifestation de Dieu, mais c'est une personne de Dieu, quelque sorte une personnification d'un attribut de Dieu ou d'une réalité divine, plus exactement. Par exemple, dans ce sens-là, Jésus est une hypostase de Dieu, le Saint-Esprit est une hypostase de Dieu. Hein ? Donc ici, La sagesse est hypostasiée dans le livre des Proverbes. Ça veut dire qu'elle acquiert une personnalité distincte de Dieu, alors qu'elle est en Dieu, tout en étant en Dieu. Hein. Et donc, en quoi consiste-t-elle? Le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7, nous le dit. Par elle, Dieu a créé le monde, et par l'intelligence, il le dirige. La sagesse est donc cette capacité divine, cet attribut divin de conduire les choses selon son plan, de faire contribuer toutes choses à son plan. Et la parole de sagesse, le don d'une parole de sagesse, c'est la révélation du plan de Dieu, la révélation surnaturelle du plan de Dieu. C'est la réponse à l'homme qui s'interroge et qui déclare et qui demande, Seigneur, je vois plus clair. Là, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Là, vraiment, je comprends plus. Tu vois, j'ai essayé de réfléchir avec bon sens, j'ai essayé. On a discuté longtemps, mais c'est tellement complexe, c'est tellement embrouillé ce problème-là, que franchement, on n'y voit pas clair. Alors toi, donne-nous ta réponse. Qu'est-ce que tu penses de ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends juste un exemple biblique. Vous vous souvenez de cette bataille où le roi Josaphat s'était trouvé attaqué par ses ennemis et qui venaient du désert de Juda, les Moabites, les Édomites, les Arabes, tout ça. Bon, une immense coalition contre lui, on vient de voir. Et le roi Josaphat est complètement découragé. Il rassemble immédiatement tout le peuple, les prêtres, les lévites, et puis on va prier. Seigneur, là, nous sommes dans une grande détresse. Nous avons le compte rendu de la prière de Josaphat. Nous sommes dans une grande détresse. Nos ennemis nous entourent de toutes parts. Il faut faire. Et j'ai dit, à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur saisit un des lévites qui était là et prophétise. Et voilà, n'ayez pas peur, roi de Juda, et vous, peuple de Juda, n'ayez pas peur. Vos ennemis, eh bien, c'est fait. Je les ai vaincus. La victoire est donnée. Voilà ce que vous ferez demain matin, vous sortirez. Mais en ordre de bataille, c'est vrai, mais pas l'ordre de bataille habituel. Les Lévites, portant l'arche de l'Alliance, sonnant des trompettes, iront au-devant. Vous chanterez les louanges de Dieu, vous n'aurez pas à combattre, et le Seigneur combattra pour vous, vous aurez la victoire. Ça, c'est une parole de sagesse. Et comment cette parole de sagesse vient-elle? Eh bien, elle peut venir sous la forme d'une prophétie. Et c'est là que je disais tout à l'heure, parfois, on appelle prophétie ce qu'on devrait appeler une parole de sagesse. Une prophétie qui dit, eh bien voilà ton problème, tu es dans telle et telle situation, tu t'interroges, tu es dans le désarroi, dans la perplexité, et voilà ce que le Seigneur te dit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et puis tu verras la main de Dieu quand tu feras ceci et cela. Eh bien ça, c'est une parole de sagesse, c'est pas une prophétie, c'est plus qu'une prophétie, c'est aussi une prophétie, mais c'est plus qu'une prophétie, c'est une parole de sagesse. Mais la parole de sagesse peut venir d'une manière différente également. Et parfois, vous savez, il nous arrive de rechercher une parole de sagesse. Il arrive parfois qu'un frère vienne vers moi, disant, ben voilà, j'ai un problème, etc. On réfléchit, on s'interroge. Et là, on dit, faut le conseil de Dieu, là. Là, c'est trop complexe, il ne faut pas se tromper, il faut le conseil de Dieu. Alors, les frères qui ont l'habitude de prophétiser se rassemblent. En général, j'évite de leur dire le problème, justement, pour que ce soit bien sûr, quand la réponse de Dieu est donnée, que c'est véritablement de Dieu. Et puis, très souvent, il arrive que le Seigneur donne une réponse, qui est une parole de sagesse. Nous avons vu à de multiples reprises, le Seigneur répond de cette manière-là, et il est fait confirmer que c'était bien une parole de Dieu. Alors ça, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement précieux. Mais ça peut venir aussi d'une manière différente, où il n'y a pas eu de prophétie pendant le moment de prière, mais un frère dit, tiens, dans le moment de prière, j'ai pensé ceci, ou j'ai eu à cœur cela. Et puis il exprime simplement, comme je vous parle ici. On dit, mais oui, mais c'est ça. C'est une parole de Dieu. C'est la réponse. Et puis si en plus de ça, le frère qui dit ça ne connaissait pas la situation, c'est d'autant plus clair. Et même à la limite, la parole de sagesse peut venir dans une conversation comme celle-là, simplement. Soudain, quelqu'un se met à dire quelque chose. Et puis on dit, mais c'est vrai, mais ça c'est une parole de Dieu. C'est vraiment de Dieu, ça. Voilà la réponse dont on avait besoin. Ou au sein d'une discussion, on est en train de discuter d'un problème, et puis on n'y voit pas clair. Et puis soudain, quelqu'un dit, mais pourquoi on ne fait pas comme ci, pourquoi on ne fait pas comme ça? Mais oui, mais évidemment, tout le monde se rallie, mais dit, mais c'était l'Esprit de Dieu, ça. Vous savez ce qui se passe à Jérusalem? Quand l'Église est rassemblée pour savoir ce qu'on va faire des païens qui se sont convertis à Jésus-Christ, est-ce qu'il faut les circoncire? Est-ce qu'il ne faut pas les circoncire? Est-ce qu'il faut les exiger qu'ils deviennent juifs d'abord? Et puis, enfin, c'est un problème. Puis soudain, Jacques se lève et dit, écoutez, voilà, j'ai entendu les discussions des uns et des autres, voilà ce qu'a dit Pierre, voilà ce qu'a dit Paul, et voilà, mais voilà ce qui me semble. On va simplement demander aux païens un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Et puis, pas exiger de porter un joug que ni nous ni nos pères n'ont pu porter. Et puis tout le monde dit, mais c'est vrai, c'est magnifique, c'est de Dieu, c'est la réponse de Dieu. Et ils écrivent en disant, il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Hein? Ça, c'est une parole de sagesse. Et Dieu est capable de révéler justement le problème, et en même temps, il apporte la solution. Et il dit, bien, voilà moi ce que je vais faire. Voilà comment je vais faire, moi. Et voilà ce que vous allez faire dans cette affaire. Alors là, on a affaire à une parole de sagesse. La parole de sagesse nous permet éventuellement de nous sortir de situations difficiles. Par exemple, quand un jour, les adversaires de Jésus viennent lui demander « Est-ce que tu peux nous dire par quelle autorité tu fais ces choses ?» C'est un piège qu'il tend à Jésus. Et Jésus retourne la question, il dit, je vais poser une deuxième question moi aussi. Si vous pouvez me répondre à ma question, eh bien je répondrai à la vôtre. Le baptême de Jean, ce qui venait de Dieu, ce qui venait des hommes. Si on dit de Dieu, ben, ils vont dire, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Si on dit des hommes, le peuple entier sait que Jean était un prophète. Alors ils prennent la décision de, non, on ne sait pas. Bon, je ne répondrai pas non plus à votre question. Une manière de se tirer d'un pas difficile. Même chose avec l'affaire du denier à César, vous connaissez bien cette parole qui est devenue proverbiale. On veut enfermer Jésus dans un dilemme. Est-ce qu'il faut payer ou non l'impôt à César? Alors si Jésus répond oui, tu es un collaborateur des Romains alors. Tu n'es pas le Messie. Et si Jésus répond non, tu es un zélote, tu es un rebelle, on va te dénoncer. Alors Jésus dit, apportez-moi une pièce d'argent là, une pièce de monnaie. Tiens, il y a une effigie ici. De qui c'est? C'est de César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout le monde a la bouche fermée. Ça aussi, c'est une autre forme de la parole de sagesse. Parole de sagesse, lorsque Moïse chante le fameux cantique qui est rapporté à la fin du livre du Deutéronome, dans lequel il annonce ce que sera l'avenir d'Israël. Israël va se détourner de son Dieu quand vous allez rentrer dans le pays de la promesse. Israël est devenu gras, il a régimbé, il a oublié le Dieu de son salut, etc. Parole de sagesse, quand Jésus, assis sur la montagne des Oliviers, annonce la destruction du temple, et puis les événements qui marqueront son retour, il est capable de le faire avec précision. Alors bien sûr, c'est une forme de prophétie. La prophétie est une de ces paroles-là. Parole de sagesse, lorsque Paul, après avoir tenté vainement d'aller évangéliser la Bithynie et d'autres endroits où il avait fait des plans, et toutes les portes sont fermées, le Saint-Esprit les empêche d'aller, il ne dit pas comment d'ailleurs, mais les portes se ferment. On ne comprend plus, Seigneur. Tu as fermé la porte de la Bithynie, on a voulu aller ailleurs. La porte est fermée aussi. Et alors on est arrivé ici. Et où est-ce qu'on va? Et cette nuit-là, Paul a un songe. Il voit le Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous. » Bon, la réponse de Dieu est là. Parole de sagesse. Qui peut prendre, dans le cas présent, la forme d'un songe. Mais c'est une réponse de Dieu. Une parole, une réponse de Dieu sur une direction à prendre. Parole de sagesse lorsque, à Césarée, où Paul est descendu après son troisième voyage missionnaire en route vers Jérusalem, Agabus vient, et vous savez, il prend la ceinture de Paul, il se lie les mains et les pieds, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Parole de sagesse que la prophétie d'Enoch, et quelle parole de sagesse, telle qu'elle nous est rapportée dans Jude, où Enoch annonce non seulement le déluge qui doit venir de, enfin, c'est le nom de sa génération, du moins deux ou trois générations après lui, et puis il annonce aussi la fin des temps. Parole de sagesse, lorsque Joseph explique le songe du Pharaon, et que sont annoncées les 7 années de famine et les 7 années d'abondance d'abord, et puis ce qui doit être fait. Parole de sagesse, lorsque Daniel annonce la ruine de Babylone au roi Nebuchadnezzar, etc. Enfin, on peut trouver des multiples exemples dans la parole de Dieu, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Alors, on voit ici que la parole de sagesse est un don que l'on doit logiquement trouver dans le ministère du prophète. C'est le don qui caractérise le prophète. Bien entendu, c'est pas parce que quelqu'un aura un don une parole de sagesse qu'il sera obligatoirement prophète, mais on imagine mal un ministère de prophète qui soit dépourvu de ce don-là. Alors ici, le problème, bien souvent, vient de l'interprétation. Parfois, il y a des directions prophétiques qui tournent au fiasco. Parce que, justement, là, ce n'est pas que la parole de sagesse était erronée, mais c'est l'interprétation, l'usage qu'on en a fait. Parfois, il y a certains qui retiennent la promesse de Dieu et puis qui oublient les conditions. Et bien entendu, dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions qui avaient été données à la parole de sagesse, eh bien automatiquement la parole ne s'accomplit pas. Il y a ceux qui hésitent et qui n'entrent pas dans le plan de Dieu à temps, et puis qui se rendent compte que c'est trop tard. Et c'est pourquoi il faut faire attention, quand on a reçu une parole de sagesse, de bien comprendre ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur entend par là, ne pas se tromper. Il y en a qui partent comme des fusées stratosphériques à partir du moment où j'ai reçu une parole de sagesse, puis qui n'ont pas pris le soin de bien comprendre et de bien analyser chaque détail de ce qui avait été dit et de bien s'appliquer à comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Le deuxième don de révélation qui vient immédiatement après la parole de sagesse, c'est le don d'une parole de connaissance. Bien, là aussi, il nous faut comprendre ce que la parole de connaissance n'est pas. Nous n'avons pas ici affaire à une connaissance humaine. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Vous avez un certain nombre de gens qui s'imaginent que la connaissance, c'est justement la théologie. Ça n'a rien à voir. Je ne dis pas que l'étude intellectuelle, la connaissance intellectuelle dans le domaine des choses de Dieu est négligeable, loin de là. Et c'était effectivement quelque chose qui a parfois été reproché avec raison aux pentecôtistes. De dire, du moment que nous avons la direction du Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de réfléchir avec notre intelligence. La Bible nous montre le contraire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il y a donc une réflexion biblique et intellectuelle qui s'impose sur les choses de Dieu. Mais Quelqu'important que soit cet aspect, cette connaissance-là, connaissance qui d'ailleurs peut, si l'on y prend garde, dit l'apôtre Paul, conduire à un orgueil qui enfle, et qui est une connaissance aussi comme la sagesse dont nous parlions tout à l'heure, la sagesse charnelle et diabolique, peut aboutir au même résultat. Mais ici, nous avons affaire à une parole de connaissance, une parole donc qui exprime ponctuellement la connaissance de Dieu, la toute connaissance de Dieu, on dirait l'omniscience de Dieu. Soudain, l'omniscience de Dieu est manifestée. Et la parole de connaissance, c'est la révélation des choses cachées dans le cœur de l'homme ou cachées les secrets de Dieu. Les secrets du cœur sont révélés, sont mis à nu. J'ai évoqué il y a quelque temps l'aventure du pasteur Barat, le pionnier, l'apôtre de la Pentecôte européenne, n'est-ce pas, qui, entrant dans la petite église de la rue Azusa à Los Angeles, a vu soudain un homme venir vers lui, il parle en norvégien, sa langue maternelle, enfin pas sa langue maternelle parce qu'il était anglais à vrai dire, et puis en train de lui dire « tu es venu ici, etc. Non pas de toi-même, c'est, tu es ici dans le plan de Dieu parce que je t'y ai conduit, parce que je vais te faire découvrir quelque chose, etc. » Bon, il est évident que ce brave frère qui parlait norvégien, croyant parler en langue d'ailleurs, n'est-ce pas, ignorait tout de ce qu'il était en train de dire. Il ne connaissait pas ce Barat plus que lui ne le connaissait. Mais il y avait ici une parole de connaissance. Dieu révélait les secrets cachés des cœurs. Je me souviens d'une autre expérience aussi, d'un professeur de grec, ça s'est passé à Brest justement, professeur de grec, qui était venu dans une des réunions là-bas, où il y avait le frère décédé, vous savez, qui, tant que je me souvienne, qui avait une expérience là, de vie après la vie, on a relaté ça dans l'expérience, enfin, peu importe. Et il s'est mis à parler grec, sans savoir qu'il le faisait d'ailleurs. Le professeur de grec était bouleversé parce que ce frère était en train d'expliquer en grec tout ce qu'était sa vie. Comme il l'a dit après, il était bien content que sa femme ne comprenne pas le grec. Et que personne d'autre comprenne le grec. Mais il était quand même tellement troublé qu'à la fin, il vient voir le pasteur et dit « Je voudrais rencontrer le professeur de grec là, qui a parlé tout à l'heure. » Le pasteur dit « Mais le professeur de grec, on n'a personne ici. » « Si, le monsieur qui a parlé grec tout à l'heure, là, qui a fait une prière en grec. Il y a quelqu'un qui a parlé grec ici ?»« Mais enfin, vous... »« Mais non, je ne savais pas. » Il était convaincu. Il s'est converti à la suite de ça. C'est une parole de connaissance. Bon, nous avons de nombreux exemples de cela. J'évoquais, je crois, une des dernières fois, une de nos dernières études, l'aventure qui était arrivée à Butler, avec ce prédicateur qui était venu d'on ne sait trop où, dans l'école biblique où il était professeur, qui se donnait comme un ancien catholique, qui avait une histoire absolument bouleversante, etc., et qui en fait n'était qu'un vulgaire escroc. Et au cours d'une réunion, vous vous souvenez comment Butler avait senti l'Esprit du Seigneur qui lui demandait de se dresser alors que cet homme était en train de prêcher, de l'interrompre et de lui dire « Eh bien, vous êtes un imposteur » et de dire devant tout le monde « Vous êtes un imposteur, vous n'avez jamais été prêtre catholique, vous n'avez jamais été ceci, vous n'avez jamais été cela. » Et comme le disait Donald G., la parole de connaissance, si elle n'est pas accompagnée du fruit de l'Esprit, peut faire de terribles dégâts. Si la parole de connaissance n'est pas accompagnée de l'amour, eh bien on voit tout de suite comment ça peut être absolument destructeur. Et c'est pourquoi Butler, qui lui justement avait cette sagesse des hommes de Dieu, n'avait pas voulu faire cette chose terrible. Il disait, si je me trompe, je peux ruiner le ministère de ce frère, etc. Et puis, le froid que ça va jeter dans cette assemblée, enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut dire. Et il avait résisté à l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que quelques jours plus tard, vous vous souvenez, par l'intermédiaire des fils de la personne chez qui cet individu louche logé, qui était parti à la pêche, qu'il avait vu en train de rigoler avec quelques prostituées, et puis donc en train de dire qu'il était un imposteur à ces prostituées-là, eh bien, la supercherie avait été démasquée. Mais Butler le savait. quand ce témoignage de ces deux jeunes gens a été rapporté à l'école biblique, il a pu confirmer, le Seigneur me l'avait révélé. C'est une parole de connaissance. Il avait reçu une parole de connaissance. Mais il est évident qu'une parole de connaissance, soudain, les secrets des cœurs sont ainsi révélés. Ça doit être manié, c'est de la dynamite, c'est évident. On peut faire, si on manque de sagesse pour l'appliquer, et Jean-Agy disait, la parole de connaissance sans la sagesse peut faire beaucoup de dégâts. Bon, nous avons des exemples bibliques de parole de sagesse. Et nous voyons avec quelle sagesse, voyons avec quelle sagesse Jésus applique la parole de connaissance, par exemple à la Samaritaine. Quand il lui dit « va chercher ton mari », elle dit « non, je n'ai pas de mari ». Mais oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris, celui avec lequel tu es en ce moment n'est pas ton mari. Parole de connaissance. Tu ne connaissais pas cette Samaritaine, tu ne l'avais jamais rencontrée, et elle non plus. Et il était capable de lui dire « tu as eu 5 maris, celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari ». C'est une parole de connaissance. On pourrait multiplier les exemples de la parole de Dieu. Jésus a souvent utilisé la parole de connaissance. Autre exemple, avec Nathanaël. Nathanaël qui vient vers lui, poussé par la curiosité, parce que on a rendu témoignage auprès de lui de Jésus, et il veut savoir, est-ce que tu es vraiment le Messie ou tu ne l'es pas? S'il vient de Nazareth, il ne peut pas être le Messie, parce que le Messie doit naître à Bethléem. Et dès qu'il le voit arriver, Jésus dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. D'où me connais-tu? Eh bien, quand tout à l'heure ton frère t'a appelé, tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Rabbi, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il a été l'objet d'une parole de connaissance du Seigneur. Parole de connaissance, quand Jésus, le soir de la Pâque, prend le morceau trempé, le donne à Judas, en disant, bien, quelque sorte, tu es le traître. Il ne le dit pas devant tout le monde. Là, c'est pareil, il le fait avec beaucoup de sagesse. Il dit, un de vous me livrera, il sait, par le Saint-Esprit. Qui, Seigneur? Celui auquel je donnerai le morceau trempé. Il dit, ce que tu fais, fais-le vite. C'est tellement inouï, c'est tellement incroyable que les apôtres ne veulent pas comprendre. Comment? Il est sans doute, Jésus lui a dit d'aller, comme il est trésorier de l'équipe des disciples, Jésus vient lui demander d'aller faire une aumône pour la Pâque ou d'aller donner quelque chose aux pauvres. Mais ils ne veulent pas croire que Judas a pu trahir, non. Jésus aurait pu dire, Judas, tu es un traître. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu as décidé de me livrer. Non, non, Jésus fait ça avec beaucoup de sagesse. Quelqu'un va me livrer. Qui? Celui auquel je vais donner le morceau trempé. Et ce que tu fais, fais-le vite. Et là, les apôtres disent, faire quelque chose, oh, ça doit être l'aumône. Voyez-vous, il y a beaucoup de sagesse dans la manière de pratiquer la parole de connaissance. Alors la parole de connaissance peut se manifester aussi, comme nous l'avons vu, de différentes manières. Elle peut se manifester dans une prophétie. Et bon, nous l'avons vu, par exemple, ces cas que j'évoquais là, ou bien, je viens d'une certaine prophétie, donnée à une personne qui était un jour dans une assemblée à Carré, un culte à Carré, qui venait pour la première fois, c'est une personne qui était très très sceptique, athée, etc., qui faisait de la psychiatrie ou de la psychologie, je ne sais plus trop, quelque chose comme ça. Et puis, soudain, un des frères prophétise, disant, bon, message pour cette personne, puis il dit, voilà, c'est à toi que je parle, et que tu saches que c'est bien à toi que je parle, qu'il n'y ait absolument aucun doute, je vais te dire une phrase que tu répètes souvent. Et il répétait cette phrase. Cette personne, c'était comme si la foudre lui tombait sur la tête, et à la fin de la réunion, il vient voir le pasteur, il dit, mais c'est pas possible, il me connaissait ce frère, mais pas du tout, pas du tout. Parole de connaissance qui vient dans ce qu'on appellerait une prophétie. Mais la parole de connaissance peut venir, que l'avons vu aussi, soudain, comme Butler qui était assis dans les rangs, là, écoutant ce prédicateur, cet imposteur, et puis soudain, le Seigneur lui dit, dis, lève-toi et parle. Parole de connaissance aussi, lorsque Ananias et Saphira viennent vers Pierre, et que Pierre dit, mais vous avez vendu le champ combien, au juste? Telle somme. Ah oui? comment vous êtes ainsi concertés l'un et l'autre pour mentir au Saint-Esprit. Comment il sait? Ben, Seigneur a révélé. Ça peut venir donc comme ça dans la conversation courante. Et il est évident que la parole de connaissance amène la crainte de Dieu. Nous sommes ici loin de la connaissance humaine, théologique, philosophique, mais nous sommes vraiment dans le domaine d'une révélation. Mais la révélation peut porter aussi sur des événements du monde. Quand Agabus vient à Antioche et qu'il dit, voilà, il va y avoir une famine qui va remplir toute la terre. Terminé. Moi, Agabus, j'ai donné mon message. Qu'est-ce qu'il faut faire, Agabus? Ça, c'est plus mon problème. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, à vous de prendre vos responsabilités. Et c'est faire très attention de parfois de demander à des prophètes plus que ce qu'ils sont capables de donner. Moi, j'ai reçu simplement cette pensée, il va y avoir une grande famine. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Moi, Agabus, je ne suis pas un des anciens d'Antioche. Je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas quelqu'un qui a une responsabilité dans cette église d'Antioche. Que les anciens, que les responsables de l'église prennent leurs responsabilités. Alors ils décident d'envoyer des secours aux frères qui sont en Judée. Et de fait, la famine arrive quelques années plus tard sous Claude. Voyez-vous, à l'inverse de la parole de sagesse qui dit « Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que Dieu veut que vous fassiez, la parole de connaissance révèle les choses. Et maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Le Seigneur vous avertit de ce qu'il va y avoir, ou le Seigneur vous avertit de ce qui est. » Et par exemple, les deux cas que je citais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est parfois difficile de faire différence entre parole de sagesse et parole de connaissance. J'ai cité deux cas sous la forme du parole de sagesse qui seraient plus proches de la parole de connaissance. Le premier cas, c'est celui de Joseph. Quand il a la révélation des songes du Pharaon, voilà, il va y avoir la famine après les 7 années d'abondance, ben, qu'est-ce qu'il faut faire alors, dit le Pharaon. Ben, Joseph dit que le Pharaon nomme un homme sage sur le pays et que l'excédent des années d'abondance soit mis de côté pour les années de famine. Alors là, on peut dire, c'est la parole de sagesse si Joseph dit ça par l'esprit, mais il peut aussi le dire par le bon sens humain. Voyez-vous, ça peut être soit une parole de sagesse, soit une parole de connaissance, selon l'interprétation qu'on lui donne. Et comme la Bible ne nous permet pas de trancher en faveur de l'une ou l'autre interprétation, on peut penser ce qu'on veut. Hein? Autre exemple, c'est justement celui d'Agabus, à nouveau, quand il annonce la captivité de Paul à Jérusalem. Et voilà, cet homme va être lié à Jérusalem. Terminé. Moi, Agabus, j'ai fini. Alors, Agabus, est-ce qu'il faut qu'il monte à Jérusalem ou pas? Ben non, disent les uns et les autres. Tous les frères qui sont à Césarée disent à Paul, non, surtout, va pas, tu vas être arrêté, etc. Paul dit, si j'irai. Mais tu vas être arrêté? Tant pis. Mais je sens que je dois aller. D'ailleurs, l'Esprit m'a averti moi-même que des tribulations m'attendaient à Jérusalem. Ça a bien confirmé ce que l'Esprit m'a révélé. Mais j'irai. Voyez-vous, les frères qui étaient à Césarée autour de Paul, fort de la révélation qui leur avait été donnée, allaient donner à Paul un conseil qui aurait été contraire à la volonté de Dieu pour Paul. Parce qu'encore une fois, ils interprétaient mal les choses. Agabus n'avait pas dit « Tu ne monteras pas », dit « Voilà ce qui va se passer à Jérusalem. Je t'avertis de ce qui, pour que tu ne sois pas surpris, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller. » Et Paul savait qu'il devait aller. Mais les frères, par affection pour Paul, c'était humain, on peut les comprendre. Je pense qu'on aurait agi de la même manière. Ils disaient, Paul, non, surtout, va pas. Paul lui dit, si, moi je sais par l'esprit qu'il faut que j'aille. Vous voyez? Et c'est pourquoi dans une parole de connaissance aussi, quand Seigneur révèle une situation, hein, où il révélera par exemple, comme nous l'avons vu avec Judas, c'est le même problème. Hein, voilà ce qui est. Et au milieu de vous, il y a quelqu'un qui est un démon, dit Jésus aux disciples. Quelqu'un est un démon. Le Seigneur révèle. Et c'est précieux, ça. Le Seigneur révèle parfois, justement, un certain nombre de choses sur des faux frères qui sont parfois infiltrés au milieu. Ça m'est arrivé, et quand on n'écoute pas cette voix du Saint-Esprit, on a les déboires. Je me souviens d'un jour, un frère qui m'avait, quand j'étais à Denain, je m'avais donné une parole de connaissance au sujet d'un frère, comme ça. C'était le trésorier de l'église et l'organiste, en plus. Oh, j'ai dit, non, écoute, là, non, c'est pas possible, je connais bien ce frère-là. Non, il est sérieux, il est droit, etc. Et puis, quelques mois plus tard, eh bien, j'apprenais qu'il avait détourné des fonds de l'église. J'avais pas goûté. Alors c'est pareil, le Seigneur nous avertit, mais c'est à nous de prendre nos responsabilités par rapport à ce qu'il nous dit. C'est à nous de décider ce qu'on va faire. Et c'est pourquoi la parole de connaissance est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus ambiguë que la parole de sagesse. Car la parole de sagesse dit, ben voilà ce qu'il faut faire. On sait exactement. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Parce que les choses sont comme ci, parce que les choses sont comme ça, parce que les choses vont se passer comme ci, comme ça, tu vas faire ça. Tandis que la parole de connaissance ne dit pas, tu vas faire ceci, dit voilà ce qui est. Je te révèle ce qui est, maintenant à toi de réfléchir. Prends tes décisions. En priant, certainement. Mais finalement, il y a une décision à prendre. Alors on comprend que ce sont des dons extrêmement importants que ces paroles de sagesse et de connaissance. Ce sont... en fait, les deux dons les plus importants, non pas obligatoirement toujours les plus spectaculaires, et c'est pourquoi je demande, dans la manifestation de ces dons, on doit se garder aussi de vouloir faire du spectaculaire avec ces choses-là. J'ai parfois des prédicateurs essayer de faire justement des paroles de connaissance comme ça. Je me souviens d'une assemblée où il y avait 200-300 personnes, et puis soudain, le prédicateur, avec un air inspiré, qui était d'ailleurs un escroc aussi, on l'a su après, dit... Le Seigneur me révèle qu'il y a ici des gens qui souffrent d'asthme. Oh. Alors, il y a un ou deux gars qui se sont levés, forcément sur 200-300 personnes. C'était à peu près sûr de trouver quelqu'un qui aurait de l'asthme. Après, le Seigneur me révèle ici qu'il y a des foyers divisés, que ces frères-là s'approchent. Et puis j'ai prié pour eux. Alors les 2-3 mal mariés du coin se sont levés, bien évidemment. C'était à peu près sûr d'en trouver. Vous comprenez que ce genre de paroles de connaissance-là, ça va pas bien loin, quoi. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur fait. Le Seigneur fait pas du sensationnalisme. Il n'avait pas attendu que toute la ville de Sichar soit rassemblée autour de la Samaritaine pour dire « Voyez, je sais que cette femme-là, elle a eu 5 maris que celui avec lequel... » Non, le Seigneur fait pas comme ça. Pas de spectaculaire, pas de cirque, pas de spectacle. Alors, parfois, bien sûr, ça, c'est spectaculaire. Si Butler avait fait ce que le Seigneur lui avait demandé, s'il s'était levé, s'il avait interrompu l'escroc, ça aurait été spectaculaire. Mais c'est quand même exceptionnel que le Seigneur agisse comme ça. Alors, Paul disait, aspire aux dons les meilleurs. Ce sont les dons les meilleurs. C'est précisément le grain qu'il nous faut rechercher, dont parlait Duplessis. Mais pour que le grain arrive à maturité, il faut parfois qu'il y ait beaucoup de paille autour. Eh bien, recherchons ces dons les meilleurs, mais ne négligeons pas les autres, les dons plus petits, qui nous permettront justement d'accéder aux dons les meilleurs et de les exercer pour la gloire du Seigneur et pour l'édification de son Église. Voilà.